Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, on a du monde dans le studio. Alors, nous recevons l'association Tourbière et Patrimoine Messois. Nous avons Philippe Sénécal, président de l'association. Nous avons Philippe Robin et Hélène Vatroba. Bonjour tous les trois, comment allez-vous ?
Très bien, merci beaucoup.
Merci.
Alors on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir votre association et puis voilà, on va parler d'un endroit particulier, hein, un site qui est cher à votre cœur et qui fait partie de notre patrimoine. Voilà, un patrimoine vivant du coup, ce coup-ci, pas que des pierres mais aussi il y a des plantes, il y a de tout. On va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et c'est parti, alors on va commencer par, comme d'habitude, à découvrir nos invités eux-mêmes, avoir une petite idée de quelle est leur, une petite bio, une petite trajectoire personnelle qui les a conduits ce jour à ce micro. Et bon, bien sûr, on va commencer évidemment par Hélène, c'est normal, honneur aux dames. Hélène, parlez-nous un petit peu de vous, si vous voulez bien.
Bonjour à tous, moi je suis d'origine parisienne, j'ai vécu toute ma vie professionnelle à Paris et je suis arrivée au moment de la retraite dans ce village de Metz pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Ce village à proximité d'une agglomération nous offrait un espace naturel extraordinaire et magnifique. Et quand j'ai vu que cette association Tourbière et Patrimoine Messois s'est formée, je me suis bien évidemment associée à tous ceux qui voulaient préserver aussi bien dans la tradition, dans la nature et dans le domaine culturel, tous toutes ces qualités exceptionnelles qu'on peut retrouver.
Voilà, des choses qui vous ont séduites dans la région en venant ici. Hein. Bon, c'est une chose d'ailleurs que j'ai entendue plusieurs fois à ce micro, hein, vous savez. Des gens qui sont venus et voilà, ils ont adoré l'endroit. Et à la limite, c'est ce que je dis des fois pour les gens, ne vous excusez pas de ne pas être landais. Vous avez plus de mérite d'être tombé amoureux de quelqu'un que vous ne connaissez pas que quelqu'un où vous êtes né devant, après tout. Hein, donc c'est...
Tout à fait.
Voilà, très bien.
Tout à fait.
Et on va passer à Philippe Sénécal. Parlez-nous de vous, Philippe, si vous voulez bien.
Tout d'abord, bonjour à tous et toutes. Je suis arrivé dans les Landes en 1975, après une première expérience professionnelle en Savoie, où j'ai participé à la création d'une station associative de ski. Donc je suis arrivé ici en 1975 dans la Grande Lande à Sabre. Où j'ai créé le village vacances de Sabre et j'ai participé également à la création de l'écomusée de Marquès.
Ah voilà, un endroit emblématique qui est cher à notre cœur.
Et puis ensuite j'ai vécu un peu sur la côte, du côté de Vieux-Boucau-Souston. Et puis après j'ai été obligé de repartir au nord de la France, dans les Hauts-de-France, mais je suis très vite revenu.
Étonnant.
Voilà. Et bon, enfin, je suis revenu, j'habite maintenant Metz, où comme Hélène, j'ai découvert qu'il y avait quand même un patrimoine naturel extraordinaire.
Oui.
Et comme je suis un passionné de l'environnement et surtout de sa préservation, eh bien, je me suis très vite investi dans cette association Tourbière et Patrimoine Messois.
Très bien, merci beaucoup. Eh bien, on va passer maintenant à l'autre Philippe, s'il veut bien.
Voilà, Philippe, merci à tous. Bon, très content d'avoir été invité à votre émission qui nous permet un peu de nous faire connaître.
Oui.
Voilà, donc je suis retraité, marié, trois enfants qui nous ont donné, pour notre joie, 8 petits-enfants et qui nous prennent pas mal de temps.
C'est sûr.
Donc j'ai fait ma carrière dans la banque et j'ai fait toute ma carrière dans les Landes. Donc j'ai commencé dans la Haute-Lande, sur la Bohême, Mimizan, Biscarrosse, et ensuite j'ai fini sur Dax. Voilà. Donc à Dax, en ayant terminé, on a posé nos valises, si vous voulez, à Metz. Et donc, dans ce village, donc, on a découvert, bien sûr, la Tourbière, on a découvert les Barthes. Donc, on est très nature avec mon épouse. Donc, c'était vraiment une chance d'atterrir dans un endroit comme ça.
Ah oui.
Donc, dès que Philippe et les autres ont monté leur association Tourbière Patrimoine, mais ça avait grand plaisir qu'on, cite, qu'on les a rejoints pour donner un petit peu un petit coup de main. Voilà.
Voilà. Ben oui. Ben ça c'est vrai qu'il y a plein de gens des fois qui viennent de grandes agglomérations, de loin, etc. Ben ils peuvent se dire ouais voilà c'est un petit bled, qu'est-ce qu'il y a à faire. Ben en fait à chaque fois il y a toujours une surprise, c'est qu'il y a un patrimoine. Bon il y a des gens déjà, il y a des cultures, des traditions et puis en fait il y a plein de petits coins avec de nature qui sont vraiment remarquables.
Ouais.
Ouais, c'est vrai. Hein,
voilà, c'est vrai, tout à fait.
J'ai un petit cocorico landais évidemment. Ben c'est mon job aussi hein, après tout. Je suis là pour ça aussi. Hein. Mais bon, c'est vrai. Et du coup, alors parlons donc de cette association Tourbière et Patrimoine Messois. Alors, c'est quoi l'historique de cette association ?
Ben, on a créé cette association, on y a pensé en 2019. On a commencé à jeter les prémices un peu du projet. Et on l'a créé en 2020. Juste
la fameuse année.
La fameuse année, ah, juste avant le Covid.
Et oui,
je crois qu'en février, on a créé l'Assemblée Générale Constitutive. Le lendemain, c'était déclaration interdit de circuler. Bon. Donc ça nous a permis de mettre en place les premiers projets. Et puis maintenant, on fonctionne avec un nombre assez conséquent d'adhérents.
Voilà. Bon, on est parti de 40 adhérents et l'an dernier, on a fini l'année avec 70 adhérents. Donc, on espère toujours progresser dans ce nombre d'adhérents, sachant que ce sont eux un peu qui nous apportent et la force et les idées pour pouvoir animer notre association.
Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce que quand vous avez créé votre association, ça a été fait un petit peu main dans la main avec la municipalité ?
Tout à aller
voir, parce que bon, eux, ça,
bien sûr, évidemment.
C'est intéressant pour eux aussi.
Oui, je voudrais simplement préciser que dans Tourbière et Patrimoine Messois, il y a trois objectifs en fait.
Voilà,
le premier, bien sûr, c'est la préservation, la valorisation de la tourbière. Ça, c'est notre objectif numéro un. Le deuxième, c'est également de valoriser le patrimoine bâti de la commune, qui est souvent méconnu, mais il faut savoir qu'à Metz, le village a été conçu et construit en grande partie par Albert Pommade, donc qui est un célèbre architecte dacquois. Et puis le troisième volet, eh bien, c'est de favoriser tout ce qui est le développement de la culture régionale. Voilà. Et donc on participe très régulièrement à des activités de découverte de patrimoine.
D'accord. Et donc vous êtes une soixantaine d'adhérents, vous
disiez, 70 actuellement.
70, voilà. D'accord. Bon, mais ça va augmenter, vous allez voir.
Mais
vous allez voir, ça va se bousculer au portillon après cette émission.
Grâce à vous,
on accepte
doubler
tout le monde.
Les effectifs.
Ouais, ben oui, c'est important. Alors, on va, j'allais dire, entre guillemets, être obligé d'attaquer la tourbière. Hein, le gros morceau, c'est... Déjà, alors voilà, c'est très bête, mais voilà, déjà, commencer par les fondamentaux. Définition d'une tourbière. Qu'est-ce qu'une tourbière ?
Alors, une tourbière... C'est relativement simple à expliquer. C'est d'abord un milieu humide. Bon, il y en a quand même un certain nombre dans les Landes. Oui. Mais c'est un milieu humide particulier. C'est un milieu humide qui est acide. Et c'est le cas à Metz, tout simplement parce que il existe du sable comme partout dans les Landes, mais il y a surtout une couche d'alios qui empêche donc l'imprégnation de l'eau dans le sable.
Oui.
Et donc, de ce fait... il y a une rétention d'eau et une prolifération d'une certaine végétation qui s'est fait petit à petit dans le temps et qui a permis donc une végétation très spéciale, on va en parler quelques moments.
Oui, il y a une faune, une flore, tout ça. Ouais. Et du coup, vous disiez acide.
Acide aux alentours d'un pH à 5.
Oui,
ce qui est pas 5, c'est pas beaucoup. Hein.
Oui.
Voilà. Mais ça, cette acidité et le fait que ce milieu-là soit toujours immergé fait qu'il n'y a pas de détérioration de la matière organique.
Voilà, c'est ça. Voilà, oui.
En fait, elle va pas se décomposer, mais elle va s'ensevelir petit à petit. C'est ça, oui, oui. Par couches successives, donc oui. Dans le terrain.
Mais c'est-à-dire que le contexte chimique fait que les micro-organismes qui sont d'habitude dédiés à la décomposition de tout ça, ben, ils sont
bloqués.
Morts, ils ne peuvent bloqués. Pas vivre. Et donc, du coup, la décomposition normale n'a pas lieu. Donc, c'est vraiment un petit monde à part, hein, un petit écosystème.
Absolument.
Une petite cuvette, hein, parce que vous parliez de la liosse, hein, donc on imagine bien comme une bassine, hein, avec le fond, ça ne peut pas partir. On va en parler en précision tout à l'heure, notamment de l'importance, là, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'eau. Hein. La gestion de l'eau, voilà, c'est un contexte particulier qui fait que ça peut perdurer. D'ailleurs, on date ça en combien de temps, cette
alors, ça dépend des tourbières, mais on a la chance, nous aussi, à Metz, d'avoir la tourbière qui est la plus visitée, celle de l'Estanque, qui est la seule que l'on puisse visiter, d'ailleurs.
Voilà, oui.
Elle est datée entre 3000 et 6000 ans, à peu près.
Voilà, ouais.
Mais la plus vieille, en fait, elle est datée de 10 à 12 000 ans.
Oui.
Donc, vous voyez, c'est 10-12 000 ans, c'est l'ère du néolithique. Hein,
oui, c'est ça. C'est vrai. Alors, ça se date pas mal, en général, les tourbières, parce que quand on fait de la palynologie, c'est une science qui permet, en gros, d'analyser les pollens des arbres en fonction de l'histoire. Et on peut vraiment avoir une idée précise de ce genre de biotope, particulièrement pour dater. Voilà. Ouais. Bon, très bien, on va faire notre première petite pause. On va écouter un petit peu de musique. On se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec l'association Tourbière et Patrimoine Messois. Donc on est en train de parler de cette fameuse tourbière, parce que c'est vrai que c'est un endroit, j'allais dire, intéressant et puis très beau, même apaisant. Alors moi je dis ça parce que voilà, ça fait partie des randos qu'on peut faire, et moi, il y a le petit tour, et je l'ai fait, donc je connais l'endroit, et je recommande aux gens de visiter ça, en respectant quand même un petit peu le lieu, hein, parce que c'est un lieu qui est classé Natura 2000, il faut le rappeler, et cela amène quand même quelques contraintes. Il faut que, quand on se promène, il faut être conscient de la responsabilité qu'on a par rapport au site. Alors, c'est quoi les contraintes un peu de Natura 2000? Quand un site est Natura 2000, qu'est-ce que ça implique?
Alors, surtout, il faut préciser que Natura 2000, ça ne veut pas dire que la nature est totalement mise sous boisseau et qu'on ne peut rien faire.
Ouais,
au contraire, non.
Non.
On peut le faire, on peut s'y promener, on peut donc en profiter, mais il faut faire attention. Par exemple, garder les chiens en laisse.
Les chiens en laisse. Il ne faut pas cueillir de fleurs.
Ne pas cueillir de fleurs, bien entendu. Ne pas circuler à moto, à voiture.
Ne pas attraper les papillons.
Absolument.
Ah bah non,
ça, on en reparlera un petit peu, parce que c'est aussi un des problèmes que
Il y a des gens qui essayent d'attraper les papillons.
Et aujourd'hui, tout ce qui est monnayable,
évidemment,
attire des gens.
Ah oui, c'est pas parce qu'ils sont amateurs de. Oui,
voilà.
parce que ça se vend.
Les plantes carnivores, ça se vend. On vend bien. Et puis le fadet aussi, c'est un certain prix sur le marché.
Ça, c'est terrible. C'est comme le chardonneret élégant qui est devenu un animal qui se vend sous le manteau, parce qu'il a le malheur, ce pauvre animal, en plus d'être beau, de bien chanter.
Oui.
C'est quand même terrible. Hein. Bon.
Et là, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur le blocage de la décomposition de la matière organique, qui est la caractéristique d'une tourbière, la conséquence, c'est qu'effectivement, les ressources en nutrition, ressources nutritionnelles pour les plantes, ont disparu peu à peu.
Et oui, c'est limité.
C'est-à-dire que, n'ayant plus rien à manger, la chaîne alimentaire est totalement perturbée.
Oui.
Donc, en fait, plus de ressources alimentaires, aboutit au fait que ce sont des espèces qui sont très frugales, qui peuvent se développer. Donc on a une flore qui est spécifique dans les tourbières,
et
on a une faune aussi qui est spécifique. Mais sur la flore, je voudrais que Philippe nous explique un peu ce qui se passe.
Donc sur la flore, donc la flore principale, quoi, ce sont les plantes carnivores, si vous voulez.
Oui.
Donc c'est une plante qui se... donc nous avons trois plantes carnivores principales. On a la drosera, la grassette du Portugal et le triculaire. Donc chaque plante a ses pièges bien spécifiques.
Voilà.
Certaines attirent les insectes, les moucherons, soit par l'odeur, ça peut être aussi par la couleur, et ensuite ça peut être par des gouttelettes qui collent et où l'insecte va se coller. Et ensuite la plante va soit aspirer sa prise, soit la fleur va se refermer sur la prise et elle va être ingurgitée.
Oui.
Donc, Donc elles se nourrissent essentiellement. Donc ça peut prendre des moucherons, ça peut même prendre des petits batraciens, quoi. Ça peut aller très
sur des... On va rassurer les promeneurs, ils risquent rien. Hein.
Voilà, leur chien ne risque rien aussi.
Non mais c'est assez fascinant qu'on plante. Hein.
Absolument. Voilà, d'ailleurs, ce caractère de carnivorie a remis en question totalement des conceptions scientifiques.
Ah, oui.
Parce que jusqu'à maintenant, on considérait que il y avait le monde animal, le monde minéral, monde animal et donc monde végétal. Et que c'était bien sectorisé. Et qu'on ne pouvait pas, donc un végétal ne pouvait pas absorber une ressource carnivore. Quoi.
Oui, c'est vrai. Oui.
Et là, ça a été un bouleversement total.
C'est vrai que c'est assez étonnant de les voir faire, notamment celles qui capturent, là, qui se referment. C'est les Drosera qui font ça ?
Drosera,
qui se referment, là, cette espèce de... Voilà.
Alors, le processus, ça peut durer entre 20 secondes et une minute, quoi. Donc, ça va quand même assez vite. Et simplement, ces plantes, donc, de par le milieu, donc, sont menacées. Donc c'est pour ça que c'est interdit de les cueillir, d'aller les vendre. Bon, voilà. Donc ces plantes sont quand même menacées aussi par la pollution. Donc les produits, les engrais, qui arrivent dans la tourbière quand même, donc détruisent un petit peu ces plantes carnivores. Quoi.
Oui,
donc pour nous, il est important d'œuvrer, d'être présent sur cette tourbière et essayer de la protéger. Quoi.
Oui, voilà. Bien sûr.
Et Jean-Philippe, au niveau national, la tourbière de Metz est réputée pour être la plus septentrionale déjà, pour commencer, et qu'elle renferme des espèces très rares, dont l'utriculaire, dont Philippe vient de parler.
Voilà.
Et l'utriculaire, elle est considérée comme en voie de disparition, c'est-à-dire qu'on a pour mission de la préserver absolument.
Oui.
Voilà. Elle existe à quelques exemplaires en France, et dont un exemplaire... Deux, trois exemplaires ici à Metz.
Ah oui, donc c'est un bien précieux.
Absolument. Ouais. Bon, alors je précise à nos auditeurs qu'ils n'auront pas l'occasion de la voir parce qu'elle n'est pas observable.
Oui.
Elle est dans une des tourbières, mais qui n'est pas visitable.
Oui, bien sûr.
Et pour les observer.
Mais par contre, on pourra en parler lors des visites guidées ou sur les panneaux explicatifs, parce qu'il y a plusieurs panneaux pédagogiques sur le parcours.
Bien sûr. Hein. Oui, Hélène ?
Je tiens à dire quand même que ces plantes sont minuscules.
Oui,
donc pour les observer, il faut prendre des loupes ou alors très, très patient et avoir un bon œil observateur.
Oui, c'est vrai. Mais c'est... En plus, voilà, c'est un endroit fermé, donc le seul apport qu'elle puisse avoir, si c'est les mouches, etc. Voilà, donc elles ne peuvent pas s'échapper, elles. Hein, donc elles sont coincées dans ce milieu très particulier. Et c'est vrai que c'est précieux.
Hein. Voilà, et on les observe surtout l'été. Juin, juillet, août, la Drosera, qui est un peu rouge, rosée, on la voit.
Oui.
Mais ensuite, les autres mois, c'est plus compliqué de les trouver. Quoi.
Bien sûr. Bon, on va déjà faire notre deuxième pause. On va écouter le flash info local et un petit peu de musique. Et on se retrouve ensuite pour la troisième partie de cette émission. Et il y a des invités qui sont invisibles, mais dont on va parler aussi. On parlait des plantes. On n'a pas parlé de la sphaigne, qui est une mousse.
Hein, voilà. La sphaigne, donc, c'est vraiment une plante qui est l'architecture de la tourbière. Donc, c'est une mousse qui retient l'eau de façon importante. Donc, c'est vraiment... elle est présente partout dans dans la tourbière. On a aussi une fleur, c'est la Molini. Donc, c'est une herbe aussi qui est reine.
Qui est invasive, surtout.
Qui est invasive,
voilà.
Qui sert un petit peu à la vannerie,
un petit peu.
Ça, voilà.
D'accord.
Donc, ensuite, nous avons d'autres plantes, je ne vais pas vous assommer, la linaigrette, le lys des marais, la gentiane. Et puis il y a les bruyères, mais enfin, c'est autre chose. Ensuite, on peut aborder la faune.
La faune, parce qu'il y a des beaux animaux. Hein.
Donc, dans la faune, notre fierté, c'est d'avoir le fadet des lèches, qui est l'emblème de notre association. C'est un papillon, un tout petit papillon, qui est menacé partout en Europe. Et on a la chance d'avoir dans la tourbière de Metz la présence de ce fadet, si vous voulez.
Oui.
Donc c'est un fadet qui a une vie assez courte, entre 8 jours et 15 jours. Mmh. Il a un vol très, très, très vif. Mmh. On commence à l'apercevoir sur des durées assez courtes, au mois de juin et mi-juillet à peu près. Mmh. Voilà. Donc, papillon protégé, oui, et menacé.
Voilà.
D'autres animaux, il y a la cistude.
Voilà.
Donc c'est une petite tortue.
La fameuse cistude.
Voilà, il y a la loutre d'Europe qu'on aperçoit. Il y a les libellules avec la corduli à corps fin. Il y a la grillon. Ensuite, nous avons aussi les chauves-souris.
Oui.
Donc le CEN, le Conservatoire des espaces naturels, a posé différents nichoirs sur les pins que l'on peut apercevoir. Donc il y a un suivi de ces chauves-souris. Voilà.
Oui. C'est vraiment un petit monde. Hein.
Oui, on a à peu près 4 variétés sur la tourbière de Metz. Mmh. On a d'abord la pipisserelle, voilà. On a le murin, on a également la noctule. Voilà, et la quatrième, je m'en souviens jamais, mais bon, il y en a une.
Oui.
On voit qu'ils volent très très haut.
Alors, il y a aussi des batraciens, parce que moi, quand j'y suis allé, j'en ai vu d'ailleurs, une belle grenouille. Alors, je ne pourrais pas vous dire le nom de l'espèce, mais j'en ai vu aussi. Évidemment, c'est un endroit...
Batraciens, lézards aussi.
Voilà,
il y a quand même... Et puis des libellules, surtout.
Voilà. Et oui, voilà.
Ça, c'est très beau, ça.
Au niveau des libellules.
Oui. Quelle est la plus belle libellule, Hélène?
La grillon de Mercure, bien évidemment, avec sa couleur bleue qui est très, très, voyante et qu'on repère facilement. Et il y a d'autres libellules, la cordulie,
à corps fin.
Mais elles sont plus rosées, celles-ci.
Et le crocotémis également, qui est la couleur rouge vif.
Alors on va profiter aussi pour voir un petit peu l'organigramme, votre fonctionnement. On en a parlé hors antenne là, parce que tout ça c'est rattaché, le territoire appartient à la commune.
Hein. Ah oui, les tourbières appartiennent, sont propriétés de la commune. Je vous ai dit qu'elles couvrent à peu près 15 hectares, hein, qui c'est pas énorme. Elles sont gérées, donc il y a une gestion qui est assurée par le Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Et on fait appel aussi à l'ONF, qui a un mode de gestion tout à fait particulier donc, dans les tourbières. Et puis nous, TPM, on intervient en tant que plus spécialement d'animateur, donc de préservation du patrimoine. Et puis on permet donc au grand public de visiter. J'en profite pour signaler que dans les Barthes de Metz, dans la tourbière de l'Estanque, il y a un circuit Terra Aventura qui a été mis en place par... le Grand Axe, enfin l'Office du tourisme du Grand Axe, et qui permet aux petits-enfants de découvrir, sous forme de jeu et avec téléphone, vous savez, de découvrir la tourbière.
Ah oui, une sorte de géocaching, on appelle ça.
Voilà, tout à fait, géocaching.
Oui, c'est une manière ludique de faire découvrir un patrimoine, que ce soit dans la nature ou en ville d'ailleurs. Alors, d'ailleurs, en parlant de patrimoine et de ville, il y a aussi, vous êtes là aussi pour le patrimoine de la ville elle-même. On parlait d'architecture, il y a des balades qui sont organisées.
Notamment sur la tourbière. Bon, on ouvre la tourbière, notamment aussi en tant pour des animations avec les enfants de l'école. Ils sont déjà mis sont préparés par les professeurs et ils nous arrivent sur la tourbière avec des questions parfois très pertinentes.
Oui, oui.
Alors on découvre cette tourbière et puis on termine cette petite balade un petit peu dans la détente. On fait du land art, on fabrique des petits des animaux avec tous les éléments qui sont dans la tourbière, et on fabrique des papillons. Enfin, on fait des jolis dessins. On a aussi ouvert l'année dernière, nous avons fait une animation sur les résiniers avec J'aime la forêt.
Voilà, ils étaient là hier, donc ça tombe très très bien.
Voilà. Et alors donc nos élèves, enfin les petits écoliers de notre école de un peu plus de CE2 et jusqu'au CM1 ont vraiment été très intéressés par cette animation. Ils ont suivi ça avec beaucoup d'assiduité et alors donc ils ont découvert la résine comment elle se faisait autrefois.
Ben oui.
Et avec aussi la modernité. Voilà. Nous faisons également des petites animations avec le centre de loisirs. Donc, on a fait des petits ateliers, on a confectionné des petits hôtels pour insectes. Mmh. On a également fleuri les alentours du lavoir. Mmh. Et puis, on a fait un peu de vannerie en faisant des petites... des portes boules pour les oiseaux, mmh. ou du macramé pour avec des plantes. Voilà, nous avons également des animations ponctuelles annuelles avec l'école de musique. Mmh. Il y a un concert qui a lieu à l'ouverture de la rentrée au début septembre.
D'accord.
Qui permet de rassembler un peu l'école de musique et remettre en place tout ça. Nous avons des ateliers de vannerie. Nous avons aussi des rencontres pour les champignons. Hein. Alors donc là, on se dresse après la récolte, après la cueillette, on s'installe au milieu de la ville sous le kiosque et puis on a des personnes qui nous apprennent toutes les diversités. Et on va essayer de rassembler justement toutes les diversités de Metz dans un espèce de petit catalogue dictionnaire qu'on va essayer de mettre
D'accord.
en place pour qui sera à disposition de ceux qui veulent s'instruire un peu sur ce domaine.
Ben dis donc, vous en faites des choses. Oui. En fait, vous remplacez les lutins, les petits lutins dans la du Père Noël dans la forêt là pour faire vivre tout ça.
Et on a également donc avec le comité des fêtes depuis 3 ans relancé donc la Heidenadau qui a lieu donc toujours le 23 décembre. Et qui a de plus en plus de succès, où on rassemble une bonne partie de la population autour d'un grand feu.
Très bien, ben voilà. Voilà, c'est quand même pas un beau pays, quand même, tout ça, hein, franchement. C'est normal que les gens ils veulent venir, hein, c'est normal. Vous n'allez pas me dire le contraire.
Oui, bien sûr.
On les recevra avec beaucoup de plaisir.
Ben oui,
on voudra partager encore plus de choses.
Voilà.
Si on peut.
Bien. Alors, on va bientôt faire une autre pause, mais je voulais qu'on parle aussi là de. Bah, de vos actions, on a bien compris que c'était très important l'eau, la gestion de l'eau pour un site comme la Tourbière. Donc il y a une chose qui s'appelle le fascinage, c'est une pratique assez ancienne, traditionnelle. En fait, sans vous, la Tourbière, il y resterait quelques années à vivre. En fait. Vous gérez l'eau d'une certaine manière, on peut en parler de ça rapidement ?
Bien sûr.
Très bien. Oui, la Tourbière, comme beaucoup de parties du territoire landais, à un moment donné, a fait l'objet de travaux sylvicoles. Mmh. Il était question de planter le plus possible d'arbres sur les terrains qu'on avait soustraits à l'humidité. Mmh. Et donc, dans les tourbières, il y a un certain nombre de drains qui ont été réalisés et qui asséchaient forcément la parcelle. Et là, Philippe, si tu veux en parler de cet aspect.
Oui. Alors, ce drain, oui, voilà, canalise un petit peu l'eau. Mais l'objet important, c'est le barrage qui maintient un certain niveau dans la tourbière.
Oui.
Et ce barrage a un rôle vraiment primordial de façon à maintenir l'eau constante.
Oui, parce que forcément, alors, il y a un apport d'eau. Alors, c'est quoi ? Est-ce que c'est un petit ruisseau ? Est-ce que c'est une nappe ?
Non.
Le port d'eau, c'est quoi ?
En fait, c'est essentiellement donc, soit la nappe phréatique qui remonte, soit des petites sources qui alimentent. Mais en aucun cas, c'est une rivière qui traverse
D'accord,
ou un ruisseau.
Oui. Ouais.
Par contre, le fait de réguler la hauteur, le niveau d'eau dans la tourbière est primordial,
primordial. Trop bas, en gros.
Et tous les gens qui maintenant qui fréquenteront la tourbière de Metz, de l'Estanque, observeront que autour de ce barrage, on a été amené à installer une barrière de protection parce qu'il y avait trop de personnes qui s'aventuraient sur cet ouvrage et qui, à force de monter dessus, le piétinaient et donc le niveau d'eau variait.
Voilà. Non, mais c'est intéressant à dire parce que, vous n'êtes pas que conservateur de ce patrimoine, vous l'entretenez aussi.
Oui, fait chaque année des ateliers participatifs avec tous les gens qui le souhaitent et qui, là, mettent vraiment la main au manche là, pour travailler sur la préservation.
Mais c'est le CEN vraiment qui pilote, quoi.
Oui.
On ne va pas de nous-mêmes organiser un étrépage, faire des travaux comme ça, trop importants. Donc c'est vraiment le CEN qui nous dit, et donc on participe bien sûr à leurs directives, quoi.
Voilà. ce qui illustre encore une fois l'utilité des associations en France, n'est-ce pas ?
Absolument.
Voilà.
Oui. Monsieur, oui.
On va faire une dernière petite pause, un petit peu de musique, et on retrouve ensuite la dernière partie de cette émission. Et voilà, on attaque la dernière partie de cette émission. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous en ce moment ? Parce qu'on a parlé pas mal d'animation, etc. Une actualité particulière à mettre en lumière en ce moment ? Ou prochainement ?
Oui, ben, tout le monde sait qu'il y a donc actuellement la réalisation d'une piste cyclable qui permettra de rejoindre Dax à Urte, oui. À côté de Bayonne.
Voilà.
Donc cette voie cyclable, cette piste cyclable, elle passera par les Barthes de Metz. Mmh. Hein. Et nous sommes depuis déjà un certain moment, mais là on va finaliser cette année-là et dans les prochains mois, un circuit découverte des Barthes de Metz, hein, qui est notre deuxième pôle d'activité sur le village. Il y a les tourbières. Il y a les Barthes, notamment.
Oui, voilà,
plus, comme l'a dit Hélène, tout ce qui est patrimoine bâti. Hein,
oui.
Avec, là aussi, la réalisation d'un circuit.
D'un circuit découverte au milieu de la ville, avec des points bien précis, sous le titre de Metz autrefois, en collaboration avec la mairie. Voilà, alors donc on a rassemblé pas mal de vieilles photos qu'on va exposer dans certains points et on va y ajouter tous les éléments pour donner des informations comment vivait Metz autrefois.
Très bien. Alors, on va profiter aussi du temps que nous reste pour rappeler, on parlait de la tourbière, donc ça s'inscrit dans le... Il faut parler géologiquement, que les gens sachent, parce qu'en ce moment, il paraît que ça coûte très cher le pétrole. Ça coûte très cher, mais en fait, il faut des millions d'années pour le faire. Hein. C'est la première étape du cycle de carbone qui peut mener à du pétrole, c'est la tourbière, en fait. Hein.
Oui, bien sûr.
On peut parler un petit peu de ça
Oui, bah, la nécessité de préserver les tourbières réside exactement en ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que si la tourbière s'assèche, il y a ce qu'on appelle la minéralisation du site. Et à partir de ce moment-là, le carbone, eh bien, il est relargué dans l'atmosphère.
Et, oui, voilà, ouais.
Et quand on sait que le relargage du carbone eh bien, aboutit à un réchauffement climatique, là, on peut se poser des questions.
Oui, voilà.
Alors, je voulais simplement préciser qu'au niveau mondial, quand même, il y a à peu près la valeur de la superficie de la Suisse qui disparaît chaque année.
Ouais, c'est embêtant. Ouais.
Donc, faisons attention à ce que nous pouvons préserver.
Tout à fait. Alors oui, c'est vrai que alors, si la tourbière était recouverte de sédiments, si elle était enfouie, elle prendrait au cours du temps, ça pourrait devenir avec la pression de la lignite et puis de la houille et puis éventuellement du pétrole. Hein, ça prend tellement de temps. Voilà. Faut se dire que quand on met du pétrole dans sa voiture, faut imaginer qu'il y a eu des milliards de tonnes et des millions d'années de plantes qui se sont décomposés d'une manière spéciale pour que enfin on ait ce liquide noirâtre qui sent mauvais et qui coûte très cher.
Tout à fait.
C'est vrai, il faut remettre les choses à sa place.
Ah, j'allais dire. Oui, c'est
vrai. Voilà. Très bien. Et voilà, dernière idée personnelle. Voilà, on a parlé de tourbe. Bon, et quand est-ce que vous faites tellement de choses ? Quand est-ce que vous faites le whisky de Metz, quand même ? Parce que franchement, avec une tourbière et tout ce que vous faites. Un petit whisky tourbé, ce serait sympa quand même. Il faudrait travailler à ce projet.
Mais on a peur que les gens boivent trop de whisky et qu'ils aillent se noyer dans la tourbière. Parce qu'il y a de l'eau quand même, ça pèse profond.
Donc, très bien.
Mais pourquoi pas
Très bien. Bon voilà, vous me faites signe hein, dès que c'est en route, moi ça m'intéresse.
Pas de soucis.
Voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour goûter, voilà. Je suis volontaire. Ben, merci beaucoup d'être venus tous les trois, de nous présenter votre association très dynamique parce que vous faites beaucoup de choses. Et puis vous êtes un petit peu comme les gardiens d'un petit joyau, hein, un petit trésor,
absolument.
Hein, qui fait partie de notre patrimoine. Voilà, donc merci pour ça. Et puis pour les gens qui n'y sont pas allés, moi je vous recommande, c'est très très chouette. Il y a un joli lavoir aussi en contrebas. Ouais. Quand il y a une petite rando à faire, faites-la, vous découvrirez un peu le site, parce que voilà, c'est vert, surtout c'est la bonne période quand même.
Voilà. Bon, bah nous aussi, nous voudrions remercier toutes les gens qui nous aident à participer à cette préservation. Nous avons reçu beaucoup d'encouragement lors des différents événements que nous avons organisés. Ça nous conforte beaucoup dans la poursuite de nos engagements, hein, d'autant plus que les projets ne manquent pas. Voilà. Alors, nous satisfaits de nos objectifs qui semblent intéresser un public de plus en plus nombreux, nous persévérerons et réservons le meilleur accueil à tous ceux et celles qui souhaitent rejoindre notre association.
Très bien, et bien voilà.
Voilà. Belle conclusion, merci Hélène.
Voilà, très bien, et bien voilà, vous savez, il y aura un lien avec le podcast et vous n'aurez plus qu'à cliquer et vous aurez la chance d'être en relation avec une dynamique association. Merci beaucoup. Tous les trois d'être
merci
venus.
À vous de nous avoir invités.
Merci.
Voilà, pour présenter notre association.
Avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.